quoi?
Environ 20 morts dans des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux présumés miliciens des Kamuina Nsapu ce week-end dans Mweditu, province de la Lomami. Par conséquent, le maire de la ville a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin depuis hier dimanche. Comment analyser l'extension de ces mouvements dans les grands Kassai? C'est la question du débat et nous en parlons avec Maître Umberto Bukassai, le coordonnateur provincial adjoint de la nouvelle société civile congolaise de province de la Lomami. Bonsoir Maître Umberto Bukassai.
Bonsoir Monsieur le journaliste, bonsoir à tous les co-débatteurs qui sont avec vous au studio et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kassai.
Maître Soudi Alimasi Kimputu, expert en décentralisation. Bonsoir Maître Soudi Alimasi Kimputu. Voilà, il va nous rejoindre. Et lui, il est au studio, c'est Joseph Kongolo, il est analyste politique. Bonsoir, Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La ville de Mweditu dans la province de la Lomami a été le théâtre samedi et dimanche d'accrochages entre deux personnes se réclamant appartenir à la milice du chef Kamuina Nsapu et les forces de l'ordre. Cette situation a paralysé les activités dans cette ville située à 132 km au sud de Mbujimayi. On écoute cet entretien entre Chris Mukande et Alain Irung.
Bonsoir Chris Mukande.
Alain Irung, bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Mbujimayi. Dites-nous, que s'est-il réellement passé à Mweditu ce week-end?
Alain, des témoins joints sur place à Mweditu parlent de groupes de personnes au signalement d'éléments de la milice des Kamuina Nsapu qui y ont fait leur apparition tôt le matin dans la ville. Ces personnes étaient pour la plupart munies de balais et de bâtons. Informés, les forces de l'ordre ont entrepris de les prendre en charge, ainsi que des coups de feu ont retenti en pleine agglomération. Au moment de grandes fréquentations, alors que les élèves se rendaient à l'école et les adultes dans leurs activités quotidiennes, l'on parle des civils, dont des élèves qui auraient été pris en étau et auraient été atteints également par des balles.
Dites-nous, Chris, dans quelle partie de la ville les affrontements ont-ils été localisés?
Les heurts ont été principalement localisés dans la commune de Bondoï, dans les quartiers Makota, Chibangompata et Kalongi. Les forces de l'ordre ont donc réussi à repousser les assaillants, et le calme a été rétabli l'après-midi de la journée de samedi. Mais le dimanche, ces individus vont revenir, en nombre cette fois-ci plus considérable. Une fois de plus, il va y avoir des accrochages dans cette atmosphère, donc on peut comprendre que rien ne pouvait marcher. Il n'y a pas eu non plus de culte le dimanche. Malgré les assurances des autorités locales, la journée de ce lundi a également été paralysée. Pas d'école ni de marché. La circulation a pu reprendre seulement vers l'après-midi. Et pendant ce temps, les forces de l'ordre sont visibles un peu partout dans la ville.
Y a-t-il un bilan officiel, Chris Mukande?
Pour l'instant, il n'y a pas encore de bilan côté officiel, hein. Aucune communication d'ailleurs là-dessus, ce qui laisse libre cours aux sources indépendantes qui avancent des chiffres qui vont de 18 à une vingtaine de décès, principalement du côté milicien. En fait, l'instauration d'un couvre-feu a été annoncée par le maire ad interim de Mweditu. Outre le fait que des agents sont en faction dans les points névralgiques de la ville.
Et pour terminer, Chris, et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Mweditu en ce moment où nous parlons?
Un calme précaire, au dire des autorités de la province de Lomami, mais la peur continue d'habiter dans la population. Celle-ci redoute une autre attaque surprise de la ville. Les témoins affirment que les miliciens ne sont pas partis très loin. On en aurait aperçu au niveau du poste de péage à la sortie nord-ouest vers Mbujimayi. D'autres auraient pris la direction de Kélé vers Dibaya dans la province du Kasaï central. Donc la psychose est encore là, Alain.
Merci Chris Mukande et bonne soirée.
Bonsoir Alain.
Merci à Chris Mukande et Alain Irung. Maître Umberto Bukassa, je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial adjoint de la nouvelle société civile congolaise, province de la Lomami. Le phénomène Kamuina Nsapu, on en parle depuis plus d'une année, mais jusque-là, personne n'arrive à expliquer, n'est-ce pas, ses contours. Comment vous comprenez cela?
Merci, monsieur le journaliste. Et je commence par féliciter votre
correspondant de Mbujimayi, Chris Mukand, il a été plus ou moins fidèle dans ce qu'il a dit là, mais il y a certaines choses que l'on devra expliquer davantage parce que nous avons vécu les faits. Vous dites que le phénomène Kamouenasapu s'est vu dans le Grand Kasaï depuis bientôt une année. On ne sait pas expliquer ce phénomène, moi non plus, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que tout est parti de la mauvaise gestion d'un pouvoir de chef de groupement du territoire de Dibaya. Le feu chef Kamouenasapu, qui avait estimé que son contentieux était mal géré, et l'unique façon pour lui de revendiquer était de recourir à la violence. C'est ça au moins que l'on peut donner comme explication au début du phénomène de Kamouenasapu. Mais quant à l'extension et à l'ampleur avec laquelle nous vivons le phénomène, je crois que les explications sont à trouver ailleurs.
Oui, tout est parti, comme vous venez de le dire, de la mauvaise gestion, n'est-ce pas, du pouvoir du chef coutumier Kamouenasapu. Et aujourd'hui, on apprend que ces miliciens ont atteint, n'est-ce pas, la ville de Mbujimayi. Comment vous analysez leur capacité à pouvoir s'étendre avec beaucoup de facilité?
Ok. Je crois que dans l'une de vos précédentes émissions, certains de vos invités avaient eu longuement à s'expliquer sur le phénomène. Et si ma mémoire est bonne, et je crois que le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental s'était évertué à dire que ce ne sont pas les mécontents de Dibaya qui viennent, qui étaient par exemple à Kapeya-Kamouanga, à Niadi, à Kamigé, aujourd'hui à Mouneditou. C'était plutôt les jeunes gens de Kabeya-Kamouanga, de Niari par exemple, qui allaient se faire baptiser, qui allaient se faire imbiber dans le phénomène, dans les amulettes, et amener les revendications dans leurs milieux respectifs. C'est presque la situation similaire avec ce que nous avons vécu dans la ville de Mouneditou. Pour la petite histoire, parce que vous me semblez que vous focalisez sur ce qu'il y a eu samedi 11 et dimanche 12. Ce n'est pas la première fois que les miliciens ont fait incursion dans la ville de Mouneditou. Déjà en date du samedi 21 janvier 2016, il y avait eu un groupe de plus ou moins 3 à 6 miliciens qui avaient fait une brève incursion dans la ville de Mouneditou dans les environs de 16h-17h et qui avaient même réussi à libérer certains détenus de l'amigo, n'est-ce pas, de la mairie de Mouneditou. Donc, vous voyez que là, le mobile n'était pas que le pouvoir était mal géré à Dibaya, mais c'était plutôt autre chose. C'est par exemple des jeunes gens des milieux les plus proches qui avaient les leurs en détention et qui venaient pour, n'est-ce pas, les libérer. Donc, ce n'est pas que tout le monde vient de Dibaya. Si nous faisons la bonne étude, et selon la rumeur, vous savez que la rumeur est l'un des vieux médias du monde, nous apprenons que ce sont les jeunes gens des villages environnants, notamment les villages qui longent le long de la rivière Mbujimayi, communément appelé le Bilangi, qui ont mordu au phénomène Kamouenasapu pour je ne sais quel mobile, et qui viennent dans la ville de Mouneditou avec des prétentions et ambitions jusque-là inavouées, Guimaté.
Maître Umberto, selon le maire de Mouneditou, ces miliciens jurent de marcher sur la ville de Mbujimayi. Est-ce que vous les voyez arriver jusque-là?
Je ne sais pas, mais de par les petits éléments qui sont à ma possession, les événements vécus samedi et dimanche, je ne vois pas les miliciens atteindre la ville de Mbujimayi, à moins que ce soit par coup de baguette magique. Pourquoi je le dis, et permettez-moi, c'est ici l'occasion de remercier nos vaillants militaires et policiers qui ont su résister et maîtriser ces assaillants. En date du samedi 11 du mois de mars, il y a eu affrontement un peu ce que vous a donné Chris Mukand comme récit. Dans la commune de Bondoui, le long des rails, il y a eu affrontement entre miliciens et les éléments de force de l'ordre. Et le samedi, les éléments de force de l'ordre ont été supérieurs, largement supérieurs, par rapport aux miliciens, et c'est cela même qui avait fait qu'ils le repoussent chemin.
Merci.
Le dimanche, ils sont revenus à un nombre plus ou moins important. Personnellement, je les ai comptés. Ils avoisinaient 102, 105 miliciens. Dans les environs de l'hôtel Castella, hôtel du Parc, dans la commune de Mouneguitou, ils ont fait face à la fond de nos vaillants combattants en force de l'ordre, qui ont su aller maîtriser, aller repousser.
Merci.
On a vu même certains rentrer en débandade.
Merci.
Avec blessures et sang. Donc, c'est pour dire que je vois mal comment les miliciens pourront atteindre, n'est-ce pas, Bujimaï, s'ils empruntaient la voie normale et la voie connue.
Merci, Maître Umberto. Maître Soudi Alimasi Kimputu, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je rappelle que vous êtes expert en décentralisation. Comment vous analysez l'expansion de ce qu'on continue, n'est-ce pas, aujourd'hui, des qualifiés, des présumés Kamuina Nsapu?
Merci beaucoup. Je crois que nos auditeurs pourraient se rappeler, lors de notre dernière émission au sujet du dossier Kamuina Nsapu, nous avions alerté l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il faudra que toutes les autorités, que ce soit du niveau local et national, puissent ouvrir l'œil et le bon à ce qui concerne l'évolution que prenaient ces dossiers relatifs au phénomène dit Kamuina Nsapu. J'avais même fait des simulations en disant que ces phénomènes, si on n'y prend pas garde, il y a en train de prendre des allures transprovinciales. Hier, c'était dans les Kasaï centrales, aujourd'hui, c'est dans les Kasaï orientales. Et ces phénomènes, si on n'y prend pas garde, ils risquent de nous ramener dans la situation qu'on a connue ou qu'on est en train de connaître à l'est de notre pays. J'ai encore rappelé, en disant que ces phénomènes étaient en train de prendre pratiquement des allures. Il avait l'allure de ce qu'on a connu au Congo central, qu'on continue à connaître aujourd'hui, similaire au phénomène Bundu du Congo. Et là, il y a des personnes éliminées à l'image du feu Kamuina Nsapu, que l'on a toléré, hébergé, avoir, entretenir une milice autour de lui pour manifester ses revendications, ce qui est dommage. Mais en même temps, ce phénomène est en train de prendre des allures d'un autre phénomène qu'on connaît à l'est du pays, le phénomène Maï-Maï. Au-delà de cela, nous nous retrouvons aujourd'hui, que ce soit dans le Kasaï central ou dans le Kasaï oriental, où il y avait des groupes réfractaires qui ne disaient pas son nom, à l'image de tout ce qu'on a connu, par exemple, au Kasaï oriental, des phénomènes suicidaires, qui ont commis des actes de vandalisme. Et tous ces suicidaires-là, dont la plupart sont ceux qui se sont repentis, se retrouvent dans les grandes villes, en fait compris la capitale de la République démocratique du Congo, où la plupart sont devenus, par exemple, des Wewa et consorts, mais les grands nombres étaient restés sur place, où il n'y avait plus d'activité minière dans lesquelles ils pouvaient, par exemple, ceux qui franchissaient les limites du polygone Miba pour aller exploiter les diamants et autres, parce qu'on connaît bien ce que faisait le phénomène, parce que parmi eux, il y avait des criminels qui pouvaient facilement tuer en vue d'avoir la possibilité, les moyens d'exploiter les minerais. Toutes ces personnes-là constituent aujourd'hui des groupuscules de ce qu'on appelle le phénomène Kamuina Nsapu. Bien entendu, il y avait la milice proprement dite de fait Kamuina Nsapu, mais l'expansion actuelle a trait à ce que l'on peut appeler les refuges de tous ces groupes de criminels, tous ces groupes sans nom, qui étaient là dans ces différentes provinces concernées de notre pays, et qui se sont transformés maintenant en phénomène Kamonassa.
Maître Soudi ?
Aujourd'hui, oui.
Oui, récemment, le gouvernement a pris une série de mesures pour un règlement pacifique de ces problèmes, notamment la restitution à la famille régnante de la dépouille mortelle du chef Kamouna Sapou. Et vous pensez qu'une telle mesure suffit-elle pour calmer ces miliciens?
Non, non, je l'ai dit, je vais le redire maintenant. J'avais dit par rapport à la proposition du gouvernement qui consistait seulement à négocier, restituer le corps et négocier avec les différentes personnes concernées, j'avais dit que cette mesure ne suffisait pas. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, je peux poser une question. On va négocier avec qui? Parce qu'on peut remettre bien le corps, comme je le souhaite d'ailleurs, qu'on remette le corps du chef Kamouna Sapou à sa famille et ainsi de suite. Mais tout ce qui s'est déjà constitué aujourd'hui comme groupuscule de Kamouna Sapou, tous ces groupes n'ont plus un seul répondant. Donc il y en a maintenant plusieurs répondants et d'autres qu'on ne maîtrise même pas.
Alors maître?
Alors, devant ces phénomènes, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avions dit qu'il faut aller avec les deux méthodes. Donc s'il y a des personnes à négocier avec, il faut le faire. Mais il ne faut pas permettre à ce que ces phénomènes qui s'est multiplié et qui n'a pas de répondant bien identifié, puisse continuer à troubler l'ordre.
Vous parlez des deux méthodes, quelles sont ces méthodes?
C'est-à-dire la méthode, ce que les autres ont appelé la méthode répressive, moi je ne l'appelle pas comme ça, parce que nos forces de l'ordre, je parle de la police nationale congolaise, a la mission principale de maintenir l'ordre public. Ce qui s'est passé par exemple à Mouenéditou, on ne peut pas attendre une négociation. C'est une surprise. Maintenant, ce sont des attaques organisées et planifiées avec objectif de faire tomber des villes et des villages. Et lorsqu'on a l'objectif de faire tomber des villes et des villages, en tout cas, nous avons les lois dans cette République, ce phénomène a un nom dans le code pénal. Ce n'est plus des revendications où on veut avoir le corps du chef Kamouna Sapou. J'ai suivi même lors de notre dernière émission les revendications des autres qui sont plus ou moins identifiées, qui disaient maintenant qu'il fallait leur arranger les routes, ça devient notre revendication, d'autres les conditions socio-économiques.
Merci, maître Kassoudi.
On n'est plus... Oui.
Oui, merci. Je vais vous redonner la parole. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Les miliciens Kamouna Sapou arrivent à Mouenéditou. Comment vous analysez cela?
Bien, merci beaucoup, monsieur Guy Maté, pour m'avoir associé à ce débat. Je salue mes co-débatteurs ce soir. Je voudrais dire d'abord, monsieur Guy, qu'il y a une question centrale. Et c'est à cette question que je vais répondre dans toutes mes interventions. C'est de savoir pourquoi seulement aujourd'hui Poundoulia Congo, Kamouna Sapou et tous ces phénomènes. C'est à cette question, n'est-ce pas, dans toutes mes interventions, je vais tenter, n'est-ce pas, de donner des bribes de réponse. Premièrement, toutes ces crises doivent d'abord être intégrées dans une rationalité de déliquescence de l'État. C'est anormal que dans un État normal, moderne, qu'il y ait des groupuscules des gens qui s'érigent en l'État. Ça veut dire ils se battent non pas à l'intérieur de l'État pour des intérêts privés, mais ils se battent contre l'État. Ce sont les symboles de l'État qui sont visés par les gens du Kamouna Sapou. Donc c'est une rébellion très atypique. Et donc le message est très fort. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois que la question de fond, c'est cette rupture, ce sont ces phénomènes de rupture entre les gouvernants et les gouvernés. Ça veut dire, tout simplement, ils nous introduisent dans ce qu'on appelle une théorie de la clandestinité. Si dans une société, dans une organisation, il y a des gens qui doivent jouer un rôle et auxquels on refuse de jouer ce rôle, ils entrent dans la clandestinité. C'est-à-dire, ils n'ont pas trouvé leur compte dans la gestion quotidienne du pays, ils n'ont pas trouvé leur compte dans leurs besoins primordiaux, et ils se mettent en dehors du jeu, ils entrent dans la clandestinité pour récupérer ce rôle. Troisièmement, ils se battent contre l'État. Voilà encore des choses très graves. Ils se battent contre l'État. C'est-à-dire que la paix n'est plus avec l'État. La paix n'est plus dans l'État. La paix, c'est contre l'État. Je crois que ce sont des messages très forts. En tant que responsable politique, on doit comprendre qu'il y a un message très fort que la population est en train de lancer à la structure étatique. Quatrièmement, je crois que les autres l'ont dit en d'autres mots, c'est ça la nouvelle radicalité aujourd'hui. La véritable opposition aujourd'hui, c'est celle qui est composée des sans-emploi, composée de sans-instruction, de ces gens qui vivent les laissés pour compte. Voilà la nouvelle radicalité. Voilà la plus grande opposition qu'on ne sait pas contrôler, qui n'a pas d'autorité morale. Aujourd'hui, elle s'exprime, non pas dans les villes, elle s'exprime dans les campagnes. Donc on a compris qu'il y a une déliquescence totale de la gouvernance. Et pourquoi seulement en ce moment? Parce qu'il n'y a plus de légitimité. C'est parmi les conséquences du manque de légitimité à la fois des institutions et des autorités, n'est-ce pas, qui les animent. Ce sont des éléments, comme je l'ai dit, des phénomènes de rupture entre gouvernants et gouvernés. Voilà l'urgence d'organiser les élections et d'avoir des nouvelles autorités du pays, des gens qui doivent incarner l'État.
Voilà, donc vous expliquez les conditions qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à comprendre ces phénomènes, notamment la déliquescence de l'État, ainsi que la rupture entre les gouvernants et les gouvernés. Et est-ce que ces mouvements qui étaient, il y a de cela quelques mois, considérés comme étant un groupuscule de une poignée, n'est-ce pas, des fanatiques drogués, et avec l'ampleur que ça prend aujourd'hui, on peut continuer à les considérer comme étant une poignée de jeunes drogués, ou alors c'est devenu une véritable rébellion, même si il n'y a pas un porte-étendard, un porte-parole, n'est-ce pas, qui est identifié aujourd'hui?
C'est une fausse analyse de considérer que c'est une poignée de gens. Non, c'est la population, les laissés pour compte qui s'expriment. Malheureusement, les laissés pour compte n'ont pas de leadership. Ils réalisent, comme un sapo est devenu un écran, l'arbre qui cache la forêt. Tout le monde s'est retrouvé dans ce combat qu'ils trouvent, eux, juste. N'est-ce pas, pour réclamer ce dont ils ont besoin. Donc, ce n'est plus, comme on l'a dit, d'ailleurs par les autres qui l'ont dit, ce ne sont plus les gens qui sont venus du Timbulu, qu'est-ce que vous voulez, Kassai central. Non, c'est devenu des répondants, des gens qui se retrouvent dans ce combat, dans tous les milieux ruraux, les laissés pour compte, qui utilisent cet écran, tout simplement, pour revendiquer. C'est ça qu'a moins dans sa peau aujourd'hui. Et d'ailleurs, si Bundudia Congo n'était pas connu, on l'appellerait aussi Kamwina Nsapu. Et on en appellera encore plusieurs, aussi longtemps que l'État restera dans les conditions actuelles, dans une défaillance totale aujourd'hui. Alors, ça devient un phénomène qui risque de retarder, ou de mettre en danger, de globaliser la résistance. Si ce mouvement se généralise, c'est-à-dire on globalise la résistance, et en ce moment-là, on va retarder, n'est-ce pas, le processus électoral. Parce que nous semblons voir dans l'évolution, si l'État ne fait pas quelque chose, demain, les élections ne vont pas avoir lieu. Et en ce moment-là, nous sommes en train d'observer, n'est-ce pas, des attitudes des gouvernants, des attitudes de quelques leaders politiques face à ce Kamwina Nsapu. Et nous sommes en train de soupçonner parfois aussi la main noire qui est derrière, n'est-ce pas, tous ces gens, tout simplement avec l'objectif de ne pas organiser les élections, n'est-ce pas, dans les délais constitutionnels. Enfin, pas dans les délais constitutionnels, mais comme convenu pratiquement dans l'accord du 31 décembre.
Merci, Maître Umberto Bukassa. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Robert Kabandani, je suis à Bukavu, Sud-Kivu. La grande question que beaucoup de gens doivent se poser, ce n'est pas celle de savoir pourquoi il y a l'extension de la milice Kamwina Nsapu au Kasaï, mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour arriver à persuader cette milice afin qu'elle mette fin à cette guerre qui a tendance à se généraliser petit à petit au Grand Kasaï, l'espace qui jusque-là était épargné de conflits armés et où beaucoup de Congolais préféraient vivre, voir quels sont les problèmes qui ont poussé cette milice à prendre les armes et trouver les solutions. Cela ne sera possible que par l'utilisation des moyens pacifiques, comme se mettre sur une même table, négocier, réconciliation et éviter l'usage de la force comme solution au problème dans le contexte actuel, puisque elle aggraverait l'issue.
Maître Umberto Bukassa.
Oui, merci monsieur le journaliste, j'ai suivi la question de notre auditeur que je salue en passant, monsieur Kabandani, à partir de qui vous. À sa question, deux choses à dire. C'est que, d'abord, il ne faudrait pas minimiser l'ennemi ou l'adversaire tant que l'on ne connaît pas sa capacité de nuisance. Permettez-moi de le dire, il y a eu mauvaise gestion, on ne se fera jamais d'en parler, de revendications que fait le grand chef coutumier Kamouna Sapo. Peut-être qu'on a semblé minimiser la personne qui a amené les prétentions, et voilà tout ce que nous demande, qui nous taraude aujourd'hui comme phénomène. Deuxièmement, c'est que l'extension ou l'extensibilité du phénomène est expliquée à une certaine étude ethnographique qu'il faudrait faire. Quand vous prenez le territoire de Luisa, quand vous prenez le territoire de Kamiji et que vous faites la politologie dans ces deux territoires, vous verrez que le mouvement est plus accueilli par une certaine ethnie homogène par rapport à d'autres. Et que l'étude qui s'en décale, c'est que cette ethnie-là se voit, par exemple, minorisée, se voit sans espace d'expression et mord facilement au phénomène, bien qu'on ne sait pas dévoiler le phénomène. Et c'est pourquoi il faudrait que les experts du gouvernement et surtout du ministère de l'Intérieur, Dieu merci, parce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur est sur place à Kananga, je crois qu'ils pourront davantage approfondir la question du découpage administratif de certains territoires. Et de toi, enfin pour terminer, c'est que dans ce pays, ce n'est pas le problème du manque de légitimité, comme semblait le dire le co-débatteur, que je respecte, de l'analyste Joseph Kongolo, c'est un point de vue que je respecte, parce que avant le problème de dialogue qui a été créé pour mettre fin à la quête de légitimité, nous avons vu le phénomène Enyele dans l'ancien Équateur. Nous avons vu Bunduja Congo vers les années 2008-2010. Il n'y avait pas un problème d'élection. Alors, c'est que il y a ce qu'on appelle en politique la théorie des dictateurs. La théorie des dictateurs, c'est que l'on peut créer un phénomène pour vous amener à la distraction et vous amener à l'oubli des questions essentielles du moment. Quelles sont les questions essentielles du moment? D'ailleurs, elles ne sont plus priées. Quelle est la question essentielle du moment? C'est principalement la question électorale. Donc, c'est la question électorale qui est d'actualité. Et le moment que le mouvement se propage ou prend de l'ascenseur dans les cinq provinces de l'ancien Grand Kassai, c'est au moment où presque les opérations préliminaires électorales sont sur le point, n'est-ce pas, de commencer. Alors, la lecture que certains politiciens kassaïens avisés, avertis, pensaient que, soit, permettez-moi que je mette les hypothèses, soit que certains ennemis du peuple kassaïen voudraient les voir diminuer le poids politique, parce que c'est à l'issue de ces opérations que l'on pourra faire, n'est-ce pas, le découpage électoral et déterminer le nombre de sièges. Alors, il y a peut-être certains ennemis du peuple kassaïen dans son ensemble qui sont à la base de ce mouvement, ou alors le kassaïen lui-même qui est à la base de ce mouvement pour déstabiliser certains coins par rapport à son chef électoral.
Merci, maître.
Et peut-être, oui.
Merci, nous allons vous redonner la parole. Maître Soudi, il y a une question qui vous est adressée, elle vient d'Isiro.
Isiro, prophète d'Iro où elle est. Je présente mes sincères condoléances à la famille des pauvres populations tuées dans cet affrontement qui a opposé les forces de l'ordre à des miliciens de Kamouna Sapo. À mon avis, la mesure prise par les maires et périmères est stratégique et ne va mettre la population de Kassai à la sécurité. Compte tenu de la pauvreté qui gangrène la population congolaise, les jeunes sont vite manipulés par les politiciens pour leurs intérêts. Les maires et périmères devraient plutôt approcher les miliciens et les écouter et connaître leurs revendications pour restaurer une paix durable. Pourquoi le maire a attendu mort d'homme pour prendre cette mesure de couvre-feu alors que gouverner c'est prévoir?
Oui, maître Soudi Alimassi.
Je crois que, pour répondre à notre ami, la mesure de couvre-feu, c'est une des mesures extrêmes de ceux qui sont dans l'administration territoriale. On ne prend pas vaille qui vaille la mesure de couvre-feu. C'est quand il y a nécessité à ce que cette mesure soit prise en vue de protéger la population que une autorité politique ou administrative peut prendre cette mesure. Qu'à cela ne tienne, je voudrais un peu revenir sur le phénomène lui-même. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, de par notre petite expérience, parce que je n'aimerais pas qu'on glisse beaucoup plus sur les aspects politiques du phénomène. On a expliqué sa genèse. C'est un phénomène qui est né, comme a dit l'un de nos co-débatteurs, de la mauvaise gestion du chef Kamwina Nsapu. Il faudra souligner ici que les miliciens existaient déjà des vivants du chef Kamwina Nsapu. Et aujourd'hui, même s'il était vivant, il ne serait pas lui-même à mesure de maîtriser l'ensemble des groupuscules des dix phénomènes aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a un phénomène d'entraînement, un phénomène d'expansion qui va au-delà même des attentes du Kamwina Nsapu ainsi que de son groupe. Ce qui fait que ça devient une situation débordante, et j'ai donné des simulations ici. Ces phénomènes-là n'est pas différent du phénomène Maï-Maï. Ce sont des faits qui naissent au jour le jour. Ce qui fait que il y a même des problèmes réels de trouver des interlocuteurs réels pour discuter avec.
Oui, mais qu'est-ce que tu dis?
Alors,
oui. Il y a c'est l'auditeur de Isiro qui a fait une recommandation. En fait, il recommande que, en fait, une approche, n'est-ce pas, qui consiste à approcher ces gens et à pouvoir parler avec eux afin de les convaincre à pouvoir déposer les armes. Mais vous avez dit qu'il y a une autre difficulté, c'est celle d'identifier le leader de ces groupes.
Parce que c'est maintenant des groupes sans leader identifié. C'est des groupes qui naissent de part et d'autre. Donc un groupe de gens qui s'estiment être capables aussi de manifester, de poser des actes, d'empêcher par exemple les mouvements de circuler des uns et des autres pour se manifester, ils s'organisent et ils se manifestent.
Maître.
C'est pratiquement le phénomène Maï-Maï.
Maître.
Oui.
Mais,
oui.
Alors, comment on serait dans l'incapacité d'identifier, n'est-ce pas, les responsables, les véritables responsables de ces groupes, dès lors que nous savons que les églises sont là, la société civile est là, les élus, n'est-ce pas, de cette province sont là, pourquoi ne pas mettre toutes ces personnes en contribution pour voir si on peut... Ils peuvent aider le gouvernement à identifier les véritables responsables de ces groupes.
À ma connaissance, le ministère de l'Intérieur est en train de travailler là-dessus. Et ça fait un bout de temps que le cabinet du ministre de l'Intérieur entre en contact avec les élus et les notabilités de ces deux provinces, ainsi de suite. Je crois que la bonne cible serait de rencontrer d'abord les chefs traditionnels de toutes ces entités concernées, essayer d'échanger avec eux et de leur demander de lancer des messages de paix à travers leurs populations respectives, mais aussi parce qu'il faudra automatiquement répondre aussi avec des méthodes particulières sur ces phénomènes qui ont pris d'autres ampleurs. Et la grande difficulté, c'est le fait que ça se multiplie rapidement et c'est l'ensemble de ces groupes. Vous pouvez maîtriser le groupe X et que vous n'avez pas d'interlocuteur pour le groupe Y, donc vous êtes surpris par des actes commis par les autres. C'est comme ça que tout d'un coup ça a quitté le Kassai central, ça traverse, oui. Maintenant c'est le Kassai oriental et aujourd'hui c'est Mouneditou, demain c'est ailleurs, etc.
Merci.
Donc il faudra que les forces de l'ordre soient toujours en alerte et que les négociations aussi puissent continuer, mais il faut savoir la bonne cible, parce que les politiciens, vous pouvez bien négocier avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec, nous connaissons les politiciens de notre pays, vous pouvez négocier avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, mais il trouve aussi une possibilité de créer son propre groupe comme on a ça.
Merci,
moi, je
pense
que notre gouvernement devra parler sérieusement avec les chefs traditionnels des contrées concernées À partir de là, on peut trouver un début de solution.
Merci, Joseph Kongolo. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient des Tanganyika.
Maître Omar Imena, je vous appelle à partir de Kalemi. À mon avis, l'expansion de ce mouvement se justifie d'abord par la non-remise du corps du défunt chef Kamona Sapou à sa famille. À cet élément vient s'ajouter le manque de confiance entre nos forces de sécurité et la population, situation qui s'assimile à un vase rempli dont une seule goutte en occasionne le débordement. Pour ce faire, pour restaurer cette confiance, la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre, fruit du consensus national, semble être la seule voie pour essayer de calmer les esprits. Nous en appelons ici à ceux qui militent pour les intérêts individuels à prioriser d'abord l'intérêt national.
Oui, Joseph Kongolo, est-ce qu'on peut lier les deux faits?
Oui, merci Maître Omari de Kalemi. Je crois que Maître Omari a raison, parce qu'on l'a relevé, n'est-ce pas, par d'autres. La restitution du corps, certes, mais la restitution du corps, comme d'ailleurs un des intervenants venait de dire tout à l'heure...
À qui?
Pardon?
À qui?
À la famille biologique, d'abord, et puis le reste après. Et c'est pas encore la solution aujourd'hui qui va mettre fin au phénomène. Je voudrais dire que le phénomène, c'est devenu un phénomène. Ce n'est plus une rébellion, une milice de Kamuena Nsapu, c'est devenu un phénomène Kamuena Nsapu. C'est l'écran, n'est-ce pas, qui laisse cacher l'expression des revendications. Ça, c'est des choses très importantes qu'il faut comprendre. Donc, quand vous détachez les lunettes politiques, vous risquez de retomber dans la routine. Mais je voudrais répondre rapidement à Maître Umberto. Il y a deux formes de légitimité. Quand on arrive fin mandat, il y a une légitimité qu'on a perdue, parce qu'on n'est plus dans le mandat. Mais il y a une autre illégitimité, n'est-ce pas? Quand les politiques mises en chantier ne réussissent pas, n'atteignent pas l'objectif. Le président ou le chef de ces programmes, n'est-ce pas, perd sa légitimité auprès de la base. C'est comme ça que dans d'autres sujets, on démissionne, tout en étant, n'est-ce pas, dans le mandat. Donc il y a plusieurs formes d'illégitimité, n'est-ce pas, qu'on peut acquérir. Mais je voudrais rapidement ici donner un élément assez important, c'est que quand on traite le phénomène Kamuena Nsapu comme quelque chose d'événementiel, d'occasionnel, de fortuit, je crois qu'on est sur une fausse piste d'analyse. C'est une expression profonde des laissés pour compte qui porte le nom de Kamuena Nsapu. Ils porteront ce nom même dans l'Équateur. Ils porteront le nom de Kamuena Nsapu. Donc, il ne faut pas considérer ça comme des phénomènes fortuits événementiels. C'est la profondeur de l'expression, n'est-ce pas, des laissés pour compte.
Et donc, c'est ce qui explique leur capacité de s'étendre.
Effectivement, c'est ce qui explique le cas. C'est-à-dire que les gens se retrouvent dans cette revendication. Ils considèrent que l'État, c'est pas celui qui met de l'ordre, c'est l'État qui vient de mettre du désordre.
Alors,
c'est
pas l'État qui construit,
c'est l'État qui détruit.
Vous pensez que le gouvernement congolais a posé les bons diagnostics afin de proposer, n'est-ce pas, des solutions adéquates?
Mais justement, je crois que le gouvernement n'a pas encore de solution. Parce que s'il y avait solution, certainement, il y aurait déjà quelque chose sur le terrain. C'est au niveau de l'analyse. Quand on fait une fausse analyse, on pose mal le problème, eh bien, on va arriver à des mauvais résultats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de légitimité de l'autorité en place, il y a des enjeux électoraux qui se cachent derrière, et en plus, il faut le dire, l'État est totalement déliquescent. Totalement déliquescent. C'est anormal que la police puisse se battre contre des femmes avec des balais en main, contre des jeunes gens. Et vous savez, je vous apprends, peut-être vous le savez, comme on est dit tout, il y a eu même des mineurs qui sont tombés sous les balles de la police. Et qu'on associe seulement aux agents de Kamuena Nsapu.
Et donc, à votre avis, pour pacifier de façon durable cette partie du pays, il faut s'attaquer à la précarité dans laquelle vivent toutes ces populations du Kassai, des Grands Kassai.
C'est le mot. Je crois que c'est le ras-le-bol. C'est cette précarité, n'est-ce pas, qui étouffe ou qui a étouffé. Et l'État n'est plus considéré comme le réparateur, n'est plus considéré comme la solution. L'État est devenu celui qui aggrave, celui qui pille, celui qui détruit, qui aggrave la précarité. Voilà pourquoi il est l'ennemi, n'est-ce pas, des milieux ruraux. Et ces choses, ce sont des choses qui se voient à l'œil nu. Et on ne peut pas faire une autre lecture en dehors de celle-là. L'autre lecture, elle est formelle, n'est-ce pas? Elle est formelle, mais la profondeur de la lecture, c'est qu'il y a un ras-le-bol dans les milieux ruraux. Et aujourd'hui, les gens se disent, écoutez, l'État est venu détruire l'ordre. Alors, il faut le combattre.
Maître Umberto Bucassa, vous avez parlé, vous avez évoqué la théorie des dictateurs. Et donc, vous voulez dire que ces phénomènes n'est entretenu, n'est-ce pas, par certaines forces pour créer une sorte de diversion.
C'est un phénomène fourre-tout. C'est un phénomène archéologique où chacun essaie de se retrouver à sa manière. Et avant que je ne développe cette théorie là-bas, je félicite l'analyste Joseph Kongolo et je me rabiboche à lui lorsqu'il évoque la deuxième sorte d'illégitimité. C'est que quand les autorités n'ont pas répondu au social, aux attentes de la population, il peut y avoir une révolte. Quand il y a malaise généralisé et que les gens ne se retrouvent pas dans le pouvoir, il suffit qu'il y ait un prétexte et tout déborde.
Alors, Maître Umberto, oui. S'il vous est demandé aujourd'hui, n'est-ce pas, de proposer des pistes et des solutions pour pacifier cette partie du pays, qu'est-ce que vous diriez au gouvernement aujourd'hui?
Je n'irai pas les chercher au ciel. Nous aurons proposé au gouvernement quelques petites choses. Un, c'est que prévoir le dialogue. Vous savez, le dialogue, je ne sais jamais de le dire, est pour la démocratie, c'est que le sang humain pour le corps. Et que le refus du dialogue, c'est une déclaration de la guerre sous d'autres formes. Et que si jamais vous déclarez la guerre, soyez à même, n'est-ce pas, de la remporter.
Maître Umberto,
oui,
ça sera sur votre conclusion. Quand vous parlez des dialogues, on va dialoguer avec qui? Parce que si vous avez bien suivi Maître Soudi Alimassi, il dit qu'il y a cette difficulté de pouvoir identifier les véritables responsables de ces mouvements. On va dialoguer avec des personnes qu'on ne peut pas identifier.
Si l'expert a suivi la dernière évolution du problème, il y a quelqu'un qui est passé sur la voie des ondes de la télévision, se déclarant de la famille du fait grand chef Poutine Kamona Tapo. Il aurait même posé certaines conditionnalités, notamment l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre et puis la restitution du corps à la famille.
Oui, alors, moi, est-ce que vous pensez que celui-là a une certaine influence sur ces jeunes qui défient la police?
Selon tant de l'expérience.
Merci.
Selon tant de l'expérience. Mais j'aimerais, surtout parce qu'on parlait de la conclusion,
Merci Maître Umberto, Maître Soudi. En conclusion, que faut-il, n'est-ce pas, pour solutionner de façon durable, de façon adéquate, n'est-ce pas, ces problèmes Kamounan Sapou?
D'abord, je refuse d'orienter cette problématique uniquement dans l'angle politique, parce que les revendications de Kamounan Sapou, de son vivant et de ses miliciens de première heure n'ont jamais fait allusion des accords de Saint-Sylvestre, de ceci, de là.
Et la solution, c'est quoi, selon vous?
On n'a jamais hésité. La solution, c'est les deux méthodes que j'ai toujours prônées, c'est-à-dire négocier, mais aussi l'État doit être en mesure de maintenir et rétablir l'ordre public sur l'ensemble de son territoire. Même dans les pays les plus développés, ce genre de groupe existe.
Négocier avec qui, Maître Soudi?
L'État connaît poser des actes de maintien d'ordre public et de sécurisation de sa population, on n'arrive pas à ce genre de résultats.
Merci, Joseph Kongolo. En conclusion?
Oui, je voudrais dire ici que il faut d'abord commencer par initier des processus de développement local et faire de tous ces gens de Kamounan Sapou des auxiliaires de développement. C'est essentiel. Et cela passe toujours par la négociation. Il y a toujours moyen de chercher des répondants, n'est-ce pas, locaux, pour pouvoir entamer des discussions et trouver des solutions.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Tiala qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, à Léon Kelly, écouté sous la supervision de Pelle Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.